Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport, votre émission incontournable du week-end. Nous sommes en direct jusqu'à midi, très très heureux de vous accompagner. Si vous êtes en vacances, si vous êtes sur la route, si vous êtes au travail, bon courage, hein, si vous bossez. On vous promet un programme de folie ce dimanche matin après les déclarations d'Adrien Rabiot, c'était hier dans la Provence. L'OM doit pouvoir se rapprocher du PSG, voilà ce que dit le milieu de terrain de l'OM. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? L'OM peut-il rivaliser cette saison avec le Paris Saint-Germain? 32-16 pour nous rejoindre au standard dès maintenant. On reparlera de foot d'ailleurs à 11h avec les infos sur le Ballon d'Or cette semaine. 9 Parisiens présents dans la liste des nommés, Dembélé grand favori, mais d'autres comme Hakimi notamment, en rêve ouvertement. Est-ce que le PSG doit faire campagne pour Ousmane Dembélé? Et puis le bras de fer GG, après la signature de Remco Evenepoel cette semaine chez Red Bull, un gros transfert qui pose question. Est-ce que c'est inquiétant ou excitant pour le cyclisme? Vous pouvez déjà faire votre choix sur le compte X des grandes gueules du sport. Sans oublier la punchline signée Stefanos Tsitsipas qui va travailler à nouveau avec son papa, le zapping, avec notamment France-Angleterre en test match de rugby et la défaite des Bleus face à l'Angleterre avant le Mondial. Et puis, dans les GG, on est quasiment à un an jour pour jour aujourd'hui de la fin des Jeux Olympiques. C'était donc l'an dernier, un 11 août 2024. On va demander à nos grandes gueules du sport de nous donner leurs meilleurs souvenirs des Jeux 2024. Et on vous demande également à vous de nous rejoindre au 32-16 pour justement frissonner ensemble et se rappeler les meilleurs souvenirs de ces Jeux Olympiques. Et ce matin dans les GG, une GG qui, comme Adrien Rabiot, porte les couleurs de l'OM, mais a forcément des petits atomes crochus avec le PSG. Marion Bartoli. Salut Marion.
Faut les chercher loin alors. Bonjour à tous.
Je suis sûr. Je suis sûr qu'à un moment donné, t'as vibré sur un but du PSG. Tu vas nous le dire dans cette émission.
Là, c'est
le moment. Non, c'est pas possible. Bon, d'accord. Ok. Salut Marion. Très heureux de te retrouver, évidemment.
Bonjour les amis.
Une GG qui, comme Adrien Rabiot, aurait pu avoir une autre carrière s'il n'avait pas misé que sur son talent. Jérôme Pinault est avec nous. Salut Jérôme.
Salut François. Bonjour à toutes et à tous. Heureusement que je n'ai uniquement misé sur mon talent parce que j'aurais pas fait cette carrière-là, par contre. C'est sûr. Le talent, il n'y en a pas. Devant le vélo, la chance, c'est que le travail paye un peu. Quand même.
Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a du talent dans le vélo?
Parce que dans tous les sports,
on dit souvent, un cycliste est talentueux. Alors, dans le foot, on voit à peu près, dans le tennis aussi, mais dans le vélo, ils sont tous en train de tourner les pédales. Donc, a priori, il y en a qui tournent les pédales de façon plus talentueuse que d'autres.
Dans le cyclisme, tu as des capacités intrinsèques. En revanche, si tu ne travailles pas, tu es nul, en fait.
Voilà, c'est
si tu oublies d'aller t'entraîner, ça ne marche pas. Hein. Tu as beau avoir tout le talent. Il y a d'ailleurs très certainement beaucoup d'auditeurs qui ont beaucoup de talent pour le vélo, mais ils ne vont pas rouler, donc ça ne marche pas. En
fait. Et une GG qui, comme Adrien Rabiot, est toujours là malgré les nombreuses sollicitations. Ludovic Duchesne est là. Salut Ludo.
Je m'accroche, je reste. Je ne partirai pas. Pas la peine de m'appeler.
Tu as eu un nombre d'appels incalculables. Voilà, mais on est content que tu sois avec
depuis
nous sur
RMC. Depuis que j'ai des canals, c'est vrai. Mais je ne partirai pas, je resterai RMC.
Voilà, accroche. C'est bien. Accroche-toi encore. On a besoin de toi, en tout cas. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Ludo qui était là hier. D'ailleurs, tu étais le premier à dire, et on en reparlera, que c'était important ce match de rugby. Là, on en parlait dans les journaux pour l'équipe de France féminine. Hein, que c'était bien comme ça d'affronter l'Angleterre, etc.
Rassure-moi, voilà. C'est un match amical.
Oui, okay, ça n'existe pas, les matchs amicaux. Match de préparation.
Ça compte pas pour la Coupe du Monde.
On aura l'occasion d'en reparler. En attendant, le dimanche à 7h-ci, bah oui, il est 9h09, hein, c'est l'heure de faire le marché, et notamment à Marseille.
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Pierre-Emerick Aubameyang et l'OM ont bien entamé des discussions. À 36 ans, l'attaquant s'apprête à être libéré de son contrat qui le lie avec le club saoudien d'Al-Qatia.
Profitez de nos super affaires French Days. Il y a 25% de réduction sur tous les produits de l'émission.
Et les frais de port sont offerts.
Accueilli en véritable star à Marseille, Timothy Weah, 48 heures plus tard, avait toujours du mal à réaliser.
Profitez-en aujourd'hui, ce sont les French Days.
On a appris aussi, côté arrivée, que l'OM s'intéressait à Edon Zegrova.
Après, le président, il va chez mon ami pour dire « Ouais, mais nous, il faut que les critères soient communs aux trois, mais on s'en bat les couilles de vos critères. Même si Yannick n'est pas content, c'est pas grave. »
Timothy Weah, 48 heures plus tard.
Beaucoup d'émotions, je peux dire, parce que j'étais jamais reçu comme ça dans un club. Donc pour moi, c'était quelque chose de très spécial. Aujourd'hui, quand t'es reçu comme ça, l'accueil comme ça, t'as envie de tout donner sur le terrain.
Moins 20% et encore moins 25% supplémentaires.
Voilà. Santé les enfants. Allez l'OM.
Allez l'OM.
Ah, bravo.
Attends, papa.
Je veux tout.
Et hommage à René Malville, hein, d'ailleurs, que l'on a entendu dans cette petite production supporter emblématique de l'Olympique de Marseille. Vous le savez, René Malville. À une semaine de la reprise de la Ligue 1, Adrien Rabiot a donné donc une grande interview à nos confrères de la Provence hier. Interview assez intéressante où il dit que l'objectif, c'est de faire une grande saison, de se qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions. L'OM doit y être tous les ans. Cet objectif est clair. Ensuite, ce sera aussi de faire du mieux possible et de rivaliser avec le PSG. Il y a évidemment un écart entre le budget colossal du PSG et celui de l'OM. Ce sont toujours les mots d'Adrien Rabiot. Mais dans le football, ça ne fait pas tout. Je pense qu'on peut déjà essayer de se rapprocher le plus possible de Paris. Je ne vais pas faire de grands discours et raconter des bobards, mais c'est l'objectif. Je pense que tout est possible avec la volonté, la détermination et la passion. D'où cette question, les GG. Pensez-vous, comme Adrien Rabiot, que l'OM peut rivaliser cette saison avec le PSG? Oui ou non? Ludovic Duchesne.
Oui.
Marion Bartoli.
Alors, se rapprocher le plus possible, les titiller, oui. Rivaliser, non.
Jérôme Pinault.
Allez, je vais dire que cette saison, pourquoi pas.
Ah, ça y est, ça s'enflamme déjà. La saison a à peine commencé. Très bien. On adore ça. Avant de
c'est
nous
l'éternel débat, tu sais, jusqu'au premier PSG.
Jusqu'au premier, exactement.
Dès samedi prochain, en fait, après Rennes-Marseille, peut-être qu'on changera de débat. Ça, vous nous connaissez par cœur dans les grandes gueules du sport.
Laissons-nous rêver, laissons-nous débattre, les amis. Voilà.
Alors, en tout cas, on va accueillir Arthur Perrault, qui est avec nous en studio. Salut Arthur.
Salut les GG, bonjour à tous.
Salut Arthur.
Bonjour Arthur.
Alors, si on s'enflamme aussi peut-être, et si Adrien Rabiot dit ça aujourd'hui, c'est parce que déjà le mercato de l'OM a été animé cette oui. été et il n'est peut-être pas terminé.
Oui, ça va continuer de s'activer pour le club phocéen qui continue d'agiter le marché des transferts en coulisses. Il essaye de s'activer pour recruter le défenseur de Bruges, Joël Ordonez. Des discussions sont en cours avec le joueur équatorien, mais le dossier est loin d'être bouclé. Au milieu de terrain, plusieurs pistes lancées, dont un potentiel retour d'Ismaël Benacer. Mais tu l'as dit, l'OM s'est déjà renforcé ces derniers jours. Dernier recrutement en date, celui de Timothy Weah, un prépayant d'1 million d'euros avec option d'achat obligatoire de 14 millions d'euros. L'attaquant Igor Peschau a lui aussi signé avec le club phocéen. Évidemment, on en a beaucoup parlé un an après son départ. Pierre-Emerick Aubameyang est lui aussi de retour. L'international gabonais a résilié son contrat avec Al-Qadisiya et s'est engagé avec l'OM jusqu'en juin 2027. Il a déjà disputé ses premières minutes cette saison lors du match amical contre Séville. Comme le milieu offensif Angel Gomez, il s'est engagé libre avec l'OM comme l'espoir anglais Egan Riley, 22 ans seulement, toujours en défense. Facundo Medina a lui aussi signé avec le club phocéen, charnière centrale. Il pourrait ainsi former un duo avec son compatriote argentin Leonardo Balerdi, qu'il a déjà côtoyé en sélection. Reste aussi au club phocéen, et c'est important, à boucler les départs de plusieurs joueurs cadres comme Jonathan Drouot ou encore Neil Maupay.
Merci beaucoup Arthur, tu n'hésites pas à intervenir, tu restes avec nous si jamais il y a trop d'enflammades. 32-16 en tout cas pour nous rejoindre, un supporter de l'OM, on vous attend. Est-ce que l'OM peut rivaliser cette saison avec le PSG? Tu as dit Jérôme, et tu ne caches pas ton amour pour l'Olympique de Marseille. Cette saison, pourquoi pas? Alors, c'est pas un oui franc et massif, mais t'as envie d'y croire, c'est ça?
Alors pourquoi j'ai envie d'y croire? Parce que je crois déjà dans le recrutement. Je pense que c'est un très bon recrutement. C'est bien fait du côté de l'Olympique de Marseille. On a des garçons qui arrivent avec le caractère qui va avec ce club. Il manque encore, selon moi, un ou deux recrues, surtout dans le domaine défensif. Mais par rapport au Paris Saint-Germain, pourquoi? Parce que j'ai suivi l'actualité, j'ai suivi tout de la fin de saison dernière, le Coupe du Monde des clubs. Il va y avoir on va en reparler tout à l'heure, cette bataille pour le Ballon d'Or. Les joueurs seront-ils prêts à la reprise du championnat? L'OM a tout intérêt, et j'espère qu'ils seront présents dès les premiers matchs. Et je me dis que sur la première partie de championnat, l'OM a tout à gagner, en tout cas tout à gagner ou tout à perdre. Ils doivent absolument faire un début en boulet de canon pour évidemment titiller le Paris. Pourquoi? Pour mettre des points, un maximum de points, là où je pense que le Paris Saint-Germain va en perdre, parce que les joueurs ne peuvent pas enchaîner les années comme ça sans avoir un coup de mouche. Je pense que le Paris Saint-Germain ne sera pas plein régime, et Luis Enrique Riquet sait très bien gérer son effectif en ce sens. Ils vont arriver en pleine possession de leurs moyens, certainement sur le début d'année 2026, mais le début de saison 2025 sera peut-être un peu plus léger du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est là où je me dis que peut-être que l'OM peut éventuellement gratter des points. Après rivaliser sur le palmarès, rivaliser sur la qualité de jeu, rivaliser en match to match, le premier PSG-OM et l'OM PSG, pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Mais sur la durée d'un championnat, et notamment sur cette première partie, là où le PSG aura laissé des plumes, devra se remettre de toutes ses émotions et physiquement de se remettre, pourquoi pas voir un Olympique de Marseille aller prendre des points, quelques points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Maintenant là, je ne parle évidemment que de la Ligue 1. Quand on parlera de Champions League, alors là, il n'y a pas photo entre les deux clubs. Mais pour ce qui est du championnat, écoute, on peut y croire. En tout cas, moi, supporter de l'OM, et je m'en cache pas, j'y crois parce que on peut voir un début de saison un peu floppy-floppa de la part du Paris Saint-Germain.
Floppy-floppa.
un peu en dedans, tu sais, on dit ça aussi, en dedans. Si j'avais dit en dedans, tu m'aurais dit ça veut dire quoi en dedans? Là, floppy-floppa. Ça vous parle, les gars. Soyons à la hauteur.
Ah non, mais je garde floppy-floppa, j'adore. J'ai l'impression que c'est un petit dessin animé pour enfants. Floppy-floppa.
On a compris l'idée.
J'ai pensé, c'est ça. Je ne sais pas si Pierre Dorian a repris le boulot, mais à mon avis, je vais avoir le droit.
Évidemment, mais oui. Ça, dans le Super Moscato Show,
ça va être archivé.
Il nous écoute, tout est archivé, t'inquiète pas. En plus, c'est Arthur Perrault qui est là et qui, en général, balance pas mal de choses.
Non, bah, t'inquiète pas. Pas du tout, pas du tout.
Adrien, je vais mettre un message à Adrien.
Adrien Aigua, il est sur écoute.
Oui, voilà.
Ludo, toi, tu es d'accord, c'est aussi à peu près les mêmes arguments, j'imagine, c'est par rapport à peut-être ce mercato, à ce qu'on a vu aussi hier. D'ailleurs, on a vu un stade Vélodrome plein hier, on peut en parler aussi. Certes, c'est un match amical ou de préparation comme on veut, mais en tout cas victorieux pour l'Olympique de Marseille face à Aston Villa. Voilà, il y a des bons signes.
Moi, j'ai déjà une différence avec Marion et Jérôme, c'est que je ne suis pas supporter de l'OM. Donc, je ne veux pas dire que ça a plus de
valeur.
C'est pas ce que je devrais dire.
Tu parles pas que avec
grand défaut d'ailleurs.
Non. je préfère un club qui est pas loin d'ailleurs de Wabi Jérôme. Peu importe. Non, moi j'écoute avec toujours beaucoup de bienveillance et d'intérêt Adrien Rabiot, qui a énormément d'expérience. J'ai lu son interview hier dans La Provence, assez longue interview, il dit beaucoup de choses. Et avant de dire qu'il va rivaliser, il dit que l'important c'est de se rapprocher. Souvent dans le championnat, le problème de l'OM c'est pas tant le Paris Saint-Germain, c'est comme l'année dernière, le Havre, Auxerre et des clubs moindres où l'OM perd énormément de points. Donc c'est sûr que l'OM ne doit pas finir à 15-20 points jamais du Paris Saint-Germain, et que l'OM qui a quand même le deuxième budget de France doit finir, et là c'est là où je rejoins Adrien Rabiot et on peut faire confiance à son expérience, doit finir dans les trois tous les ans. Je veux dire, c'est une obligation pour Marseille d'aller en Ligue des Champions. Cette année, le seul hic, moi j'y crois, le recrutement, je trouve, est intéressant. Faudra voir ce que donne Peck Shao, qui est annoncé comme la grande star, a quand même 35 millions d'euros. Et il faudra voir ce que ça donne. Mais cette année, j'y crois, le seul hic, c'est quand même que Marseille va jouer aussi la Ligue des Champions. Donc il leur faut quand même un effectif XXL. Mais plus que de dire que, moi il faut que l'OM soit dans les trois. Il faut que l'OM se rapproche. C'est impératif. Cette année, ça me semble intéressant. Hier, tu parlais du Vélodrome, c'était chaud. C'était très,
alors, attends,
très chaud.
Parce que hier, Ludo, voilà, moi, c'est aussi une phase inquiétante, parce que c'est déjà très chaud, ça n'a pas commencé. On le sait, la problématique de l'OM, c'est aussi de mater le Vélodrome, de se l'accaparer, d'être serein à domicile et de dérouler. On peut pas dire que là, sur un match de prépa, c'est pas un match amical, mais un match de prépa, on peut pas dire que la sérénité est présente. On a vu quand même déjà beaucoup de nervosité dans ce match qui n'est qu'un match de prépa. Ça peut être ça aussi l'élément inquiétant, Ludo, je pense, par rapport à l'OM.
Après, avec deux Zerbi, voilà. Voilà, Marion l'a dit, là, pour le coup, c'est l'OM. Et ça, on peut rien y faire, c'est comme ça. Mais ils vont gagner trois matchs et l'OM se verra en finale de la Ligue des Champions. C'est toujours le danger du côté des Marseillais. Moi, je te laisse exagérer, Marion. Alors, vas-y.
Non, Mario, c'était la plus mesurée, hein, quand on parle de, voilà, toi tu veux pas qu'on parle de,
non, mais c'est vrai que j'ai eu la chance
avec le PSG, voilà, il y a pas de rivalité avec le PSG, mais comme le disait Ludo, c'est de se rapprocher, de pas être aussi loin à la fin du championnat en termes de points.
Non, mais il est vrai que dans mon analyse, je prends plusieurs éléments en compte. Le premier, c'est que au-delà d'être une supportrice, j'ai eu la chance aussi de rencontrer tout l'effectif en 2013, de comprendre comment vraiment de l'intérieur ce club fonctionnait. Au-delà de voir effectivement les images à la télévision et de ce qu'on ressent lorsqu'on joue au Vélodrome, quand on connaît le fonctionnement de ce club, on sait très bien qu'à l'OM, tout est plus compliqué. On sait très bien que ce club est particulier. Déjà, rien que de garder les cages à l'OM, c'est déjà autre chose que de garder les cages dans un autre club français. Donc, il y a une pression supplémentaire et il faut effectivement des joueurs qui soient en capacité d'assumer cette pression. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'interview d'Adrien Rabiot, c'est que, en fait, il adhère au projet de Roberto De Zerbi. Il adhère au projet de l'OM parce qu'il pouvait partir dans plein d'autres grands clubs qui lui proposaient un plus gros salaire que l'Olympique de Marseille. Et que finalement, il désire aussi vivre ses émotions avec l'Olympique de Marseille. Il est certainement revanchard par rapport au PSG. On sait très bien qu'il est parti en mauvais termes. Oui, mais il est parti en mauvais termes avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ce qu'il veut vivre, c'est des émotions en Ligue des Champions au Vélodrome. C'est de voir ce stade justement s'enflammer. Et l'OM, ça sera toujours ça parce que il y a cette ferveur et cette passion au quotidien, parce que cette ville vibre pour ce club et que cette ville vit pour le foot au-delà de tout. Maintenant, lorsque je regarde la saison précédente, effectivement, on finit deuxième. L'OM finit deuxième, mais à 19 points d'écart en perdant 9 matchs. Je trouve que c'est énorme d'être deuxième d'un championnat aussi gros que la Ligue 1 en perdant 9 matchs. Je pense que 9 matchs sur 34, c'est beaucoup trop en termes de défaites. Je pense qu'il faut vraiment réduire les. Et là où je rejoins totalement Jérôme, c'est qu'il est vrai que pour moi le PSG va avoir un enchaînement qui me paraît extrêmement compliqué entre tous les matchs à très forte tension et très fort enjeu sur la fin de saison de l'année dernière, plus l'enchaînement du début de saison. Et je pense que si l'OM arrive à carburer avec les nouvelles recrues qui s'intègrent dans cet effectif et arrive justement à ne pas perdre des points en route contre toutes les autres équipes, puisque finalement sur un championnat, le PSG le joue quand ? Deux fois sur deux matchs aller-retour. Même si effectivement ces deux matchs sont perdus, allez, assumons qu'ils sont perdus, tu perds 6 points. Il y a 7 autres défaites sur d'autres équipes. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut réduire complètement le gap. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer.
Comme dit Jeff, 6 mais pas 15, quoi. Tu peux perdre 6 points, mais tu ne peux pas perdre 15 points.
Ça, c'est sûr.
Mais après, tu as 8 matchs sur 4 mois sur la Champions League avec un nouveau format où tu as besoin de simplement, entre guillemets, finir dans les 24 premiers sur 36 équipes. Et là, je crois que l'OM doit vraiment viser la qualif en 16e. Je pense que ça sera pas possible de finir dans les 8 premiers en qualif direct sur 8e de finale. En revanche, être qualifié dans les 24 premiers, je pense que c'est vraiment quelque chose de jouable. Et moi, j'étais traumatisée, mais vraiment traumatisée, par ces campagnes de Ligue des Champions où l'OM était qualifié chaque année. Et c'était catastrophique, on était ridicule. Ça en devenait même...
je trouve c'est presque en train de dire que
les voir comme ça. Donc s'il
faut choisir,
il faut
une belle campagne européenne plutôt que d'aller justement titiller le PSG pour
je pense qu'avec l'effectif
tu ne peux pas gagner.
Voilà, je pense qu'avec les recrues effectuées, avec le mercato qu'ils ont fait, alors Ludo en a parlé, il y a Paik Chao qui est donc la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, le brésilien qui vient pour 35 millions d'euros de Feyenoord. Il y a Timothy Weah qui est donc le fils du président du Liberia, ancien ballon d'or lui-même, ancien joueur du PSG de Milan et de l'OM. On part avec quand même des joueurs qui ont de l'expérience en Ligue 1, qui ont quand même un palmarès, en tout cas une étoffe qui me paraît intéressante.
Et des joueurs qui s'inscrivent parfaitement dans le système de jeu de Zerbi.
Dans le projet de l'OM.
C'est quelque chose qui est important par rapport aux autres années. On ne va pas réapprendre un système de jeu. C'est des joueurs
et quand tu vois le retour d'Oba, qui marque déjà 2 buts hier contre Aston Villa, il est parti qu'un an en Arabie Saoudite, donc le projet aussi et tout ce qui se passe autour de l'OM, il le connaît très bien. Donc je crois que l'OM est capable de se rapprocher en termes de championnat français. Je pense qu'il peut faire mieux en Coupe de France. Par contre, en Ligue des Champions, faut pas comparer parce que là, je pense que c'est vraiment incomparable.
Bon, le premier match contre le PSG, ça sera très vite, hein. Ça sera au mois de septembre, le 21 septembre. Ouais. Ça sera la 5e journée. Donc, on sera vite fixé quand même sur l'OM, qui entre-temps aura donc affronté Rennes.
Il y en a un qui est possible
de
gagner,
FC, c'est Lyon et Lorient.
Dès vendredi, hein, puisqu'ils vont,
Nantes,
à Rennes. Hein. Ouais. Et Nantes bientôt, mais ils vont à Rennes.
Pourquoi attention à Nantes, hein, ça part fort. Hein,
non, mais surtout qu'ils vont.
Non, parce
vont
que
quand
Jérôme,
à
chaque fois, il nous sort Nantes.
Non, mais parce que là, c'est la Bérésina, on n'a plus de joueurs. Je crois qu'ils vont m'appeler. Je vais aller jouer.
C'est prévu.
Tu serais pas moins bon que certains. Mais bon, on va pas
non,
décider.
Mais Marseille ouvre le championnat vendredi prochain. Ouais. Ils vont à Rennes. Déjà,
c'est déjà.
Ils vont retrouver,
c'est un vrai match.
Ils vont retrouver Quentin Merlin et Valentin Rouillet.
Aïe, il fait mal aux oreilles.
On nous expliquera peut-être un jour pourquoi ils sont partis. Moi,
on en a parlé dans les
grands. J'ai du mal à comprendre à l'OM, c'est tout ce turnover permanent. C'est ce qui est aussi compliqué tous les ans quand tu changes 3/4 de l'équipe, 3/4 de l'effectif, repartir. Là, ils ont gardé l'entraîneur, ce qui est une première depuis 5 ans déjà, donc ce qui est bien.
Ouais. Non, mais tu étais obligé de recruter en défense. Ils gardent quand même pas mal de cas. Tu es obligé de recruter un Facundo Facundo Medina, qui a quand même de l'expérience en Ligue 1. Je suis désolée,
on
a parlé
pendant
toute la saison l'année dernière.
Oui,
mais si tu imagines, l'année dernière, on a parlé pendant toute la saison, c'était horrible.
T'es pas obligé de virer Rongier, t'es pas obligé de virer Merlin, qui est un bon défenseur.
Si tu veux acheter Pachao,
t'es obligé de
sortir de l'argent.
Te dégraisser, mais bien sûr.
Après,
et là, pour le coup, des joueurs à valeur marchande élevée, Merlin en faisait partie. Mais c'est uniquement le choix. Je ne suis pas sûr que le joueur ait levé le doigt en disant je veux aller jouer à Rennes. C'est pour faire entrer. Moi, je suis très, très méfiant
de cette
recrue brésilienne. Un Brésilien à Feyenoord, ça marche bien. Est-ce qu'il est arrivé à jouer à l'OM avec toutes les attentes qu'il y a derrière? Il n'est pas si vieux que ça. Et c'est un jeune joueur et les attentes derrière lui. Franchement, c'est peut-être le couac qui peut faire que ça déraille un petit moment.
Le dernier qu'on a attendu à l'OM, c'était Vitinha.
À 35 patates, il faut le faire jouer.
Non, mais il y a eu Ndiaye aussi qui était arrivé.
Non, mais ce problème, c'est qu'on s'est trompé de Vitinha.
Angastar, ouais, tout à fait.
Il nous fallait Vitinha du PSG, on a pris le mauvais Vitinha, c'est ça le problème.
Ah oui, ça c'est
oui, parce que l'autre, tu l'auras plus jamais.
Clairement.
Ça coûte un peu trop cher.
En tout cas, on a entendu Arthur tout à l'heure. En termes de mercato, c'est pas terminé. Ça va avoir son importance. Il y a évidemment des manques dans cette équipe marseillaise.
Il faut chercher derrière.
Et notamment derrière. Il y a des joueurs aussi qui vont encore quitter le club, certainement dans les jours à venir. Donc il va y avoir encore du changement. Ce qui est intéressant
mais
aussi.
Ce que tu dis, François, c'est important, mais je ne sais pas si Arthur est au courant. Il y a aussi la problématique, et ça, on va y arriver très vite à parler de ça à l'OM, de ce loft. Il y a des joueurs qui doivent partir. Des joueurs qui, s'ils restent à l'OM et qu'ils ne s'entraînent plus avec le groupe, qui s'entraînent avec le groupe, avec le moral dans les chaussettes, attirer le groupe vers le bas, ça va poser problème. Il faut qu'il y ait des joueurs, là, je pense à Raoult notamment, ils doivent partir, ils doivent trouver des solutions.
Et pourtant, il est excellent
là, s'en aille.
Raoult,
il a fait
excellent,
très bon match. Hein,
oui, mais sauf que s'il joue pas, Ludo, tu sais comment c'est. Un joueur de ce talent-là, oui, mais pour l'instant, il est quand même plutôt, Arthur pourra confirmer, sur la liste.
Il est clairement sur la liste.
Il faut qu'il parte.
En tout cas, comme il a une valeur marchande,
c'est ça aussi. Oui, alors tu as commencé à en parler. Il y a donc 6 joueurs indésirables qui sont aujourd'hui dans un loft mis en place par l'OM. On peut ajouter Asdine Unai ou encore Ismaël Koné dont on n'a pas parlé.
Harit aussi. Amine Harit est toujours là.
Il y a Blanco, Mumbanya, Bamo Meite, Harit est toujours là.
Harit, selon De Zerbi, il veut le faire jouer dans un jeu de rotation. Et a priori, Amine Harit n'est pas tout à fait d'accord.
C'est pas sûr que ça lui plaise. Voilà, c'est ça.
Voilà.
Donc voilà, encore pas mal de questions autour du mercato marseillais. On va continuer d'en parler de cet Olympique de Marseille. Avec vous au 32-16, vous n'hésitez pas, vous rejoignez le standard des grandes gueules du sport et on continue le débat tout de suite sur RMC. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Bientôt 9h30, vous écoutez les grandes gueules du sport en direct, vous le savez, tout l'été, on vous accompagne. Et ce dimanche matin, c'est Jérôme Pinault, Ludo Duchesne et Marion Bartoli qui tiennent les commandes de ces grandes gueules du sport, avec Arthur Perrault également présent pour ce débat autour de l'Olympique de Marseille. Est-ce que, comme le dit Adrien Rabiot, l'OM peut rivaliser cette saison avec le PSG? Voilà le débat de ce matin et on vous a demandé évidemment vos réactions. Et au 32-16, nous avons Malcolm qui est avec nous, qui nous a rejoint ce matin. Bonjour Malcolm.
Bonjour l'équipe, comment ça va?
Bien.
Et toi, c'est un Bordelais, Malcolm?
Alors, c'est pas un Bordelais, mais visiblement, c'est pas un Marseillais non plus, Malcolm.
Non, c'est un Parisien, Malcolm.
C'est un Parisien.
Ça y est, il va désinguer l'OM.
Alors, allez, ça, faire réagir des Parisiens à un débat là, sur l'OM.
C'est moche.
C'est le parler quand même.
C'est avant tout un fan de foot. Voilà.
C'est parisien, je suis parisien, c'est pas dire que je suis marseillais, par exemple, j'aime beaucoup Marion Bartoli.
Voilà.
Quelqu'un avec beaucoup de qualité, décidément.
Surtout avant les classiques où à chaque fois elle pense que Marseille va gagner. Voilà. Et à chaque fois on rigole après. Voilà.
Et oui, mais moi je suis une éternelle optimiste, tu sais, malheureusement.
En revanche, Jérôme Pinault, tu l'aimes pas trop, si j'ai bien compris, mais c'est pas grave.
c'est pas que j'aime pas Thibaut, c'est que.
Appelle le Régis.
Laissez Malcolm finir.
C'est pas que j'aime pas Jérôme, c'est que en fait parfois je trouve que dans son analyse il est pas assez il s'enflamme trop. C'est bien l'année dernière je reprochais, c'est à dire qu'à chaque fois ça va être Paris va se casser la gueule mais forcément Marseille va gagner tout le temps alors que non. Et là cette année, alors peut-être il a raison sur c'est peut-être le début de saison. Le souci c'est que déjà l'année dernière Marseille avait fait un super début de saison et avec un très bon Greenwood etc. Marseille, moi j'ai deux reproches quand même où ça me fait un peu peur pour eux. L'année dernière j'avais l'impression que jouer tous les 7 jours, ils étaient fatigués comme s'ils jouaient déjà tous les 3 jours. Alors que là, maintenant, il faut rajouter en plus avec des champions. Deux, il y a aussi la défense. elle n'est pas encore assez fournie pour vraiment rentrer en concurrence avec Paris, pour moi, à mes yeux. Et ensuite, troisième truc, c'est genre, pour beaucoup de foot, j'ai toujours peur des années 2 de Zerbi. Ça n'a jamais été fantastique. De Zerbi, quand il y a une Coupe d'Europe en plus, c'est pas, par exemple, les Brighton ou même
d'autres trucs.
C'est compliqué. Donc, il faut justement gérer tout ça, tout en sachant, et là, par contre, j'avais oublié ce point quand je listais, là, justement, Jérôme avait sur un point, le Vélodrome est très chaud, là, ça s'attire bien. Faites attention, c'est le début de saison, Marseille, c'est vrai, ça s'enflamme beaucoup, quand ça gagne, ça commence à sortir des dingues pas possibles, comme une fois l'année dernière, après un match de Saint-Etienne, les supporters disaient, oui, l'année prochaine, vous verrez, on va faire du très fort en Ligue Champion, et quand ça perd, bah, ça veut tout.
Oui, bien sûr.
Arrêtez.
Oui, mais ça, c'est l'excès à Marseille.
Je veux juste rappeler aux
Marseillais. On est supporters de l'OM. Hein.
Rappeler aux Marseillais que la victoire d'hier ne compte pas pour le championnat. C'est-à-dire que Marseille n'a pas marqué 3 points hier.
Ah bon, t'es sûr? Tout le monde, je croyais qu'on a marqué 30, mais.
Pour revenir sur le Vélodrome, quand même.
Ça, c'est fantastique.
Ce qui est intéressant, quand même, c'est que l'an dernier, il y a eu un vrai syndrome Vélodrome. Pas facile à gérer par Roberto De Zerbi. Souvenez-vous, il avait essayé de trouver toutes les ficelles pour faire comprendre à leurs joueurs qu'il fallait un petit peu faire descendre la pression quand on était au Vélodrome, parce qu'ils ont perdu des points au Vélodrome.
Il a montré
contre Auxerre, par exemple, qu'ils perdent, et à l'issue de ce match, De Zerbi qui met lui-même sur la table son départ, et ça avait été vraiment un moment assez marquant de la saison. Là, j'ai l'impression quand même. Alors, certes, c'est un match de prépa, tu l'as rappelé, Ludo, mais j'ai l'impression quand même que voilà, le Vélodrome peut aussi transcender certains joueurs. Et ces joueurs-là ont été choisis pour ça. Un Medina, par exemple, dans l'attitude, hier, il a tout compris. Enfin, moi, j'ai l'impression. Hein,
c'est pas lui qui va calmer les autres.
Mais de toute façon, c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 depuis plusieurs saisons.
Déjà, et puis même dans l'attitude par rapport au Vélodrome, il ne va pas avoir peur, lui, du public.
Hein, alors, c'est une vérité pour un garçon comme Medina, qui est sud-américain, qui a le sang chaud, qui sait et qui a l'expérience de la Ligue 1 et des grands clubs. Et dans son pays, ça joue et c'est chaud. Maintenant, la petite recrue pépite Pechao, si lui, il ne met pas les deux pieds l'un devant l'autre très vite, avec le poids du transfert et un public qui peut se plaindre de ses prestats, ça peut faire l'inverse. C'est ça le problème de.
Oui, mais c'est un sud-américain
aussi. On l'aime pour ça. Alors oui, mais c'est j'espère. Mais en tout cas, mais on peut pas reprocher ça à l'OM et Malcolm, tu le dis.
Mais jamais. De toute façon, c'est l'essence de l'OM, c'est son ADN.
Tu me dis, j'ai tendance à m'enflammer, mais l'enflammage, ça fait partie de l'ADN de ce club. C'est pour ça que je l'aime. Mais c'est aussi, s'il y avait pas l'OM et s'il y avait pas des gens qui s'enflamment comme nous, vous les supporters parisiens, ce serait triste votre saison. Il y aurait pas.
Mais oui, vous appellerez jamais standard. Ça serait trop calme.
Le standard.
Ça serait trop calme.
Le truc. si on n'est pas là, nous l'OM, on s'embête en Ligue 1. Il y a que le Paris Saint-Germain qui domine. Bon, il y a le FC Nantes un peu.
Il y aurait moins de transferts, c'est sûr, s'il n'y a pas l'OM.
Et chaque année, on n'aurait pas le débat. Et si c'était l'année, et si l'OM finalement.
Après, je pense que je vais le redire. Le problème de l'OM, c'est pas Paris. Ça doit pas être le Paris Saint-Germain. Donc ça doit être les autres clubs et l'autre. Championnat finalement de l'OM, s'ils veulent se rapprocher, déjà battre Le Havre, déjà battre Auxerre, déjà battre.
Bien sûr.
J'allais dire Nantes, Jérôme, non, pas Nantes, faut laisser Nantes tranquille.
Mais après, leur championnat, c'est avec Monaco. Ils sont pas sûrs, on n'est pas sûr que l'OM ait un meilleur effectif aujourd'hui à l'heure actuelle que l'AS Monaco, par exemple. C'est une équipe comme Rennes qui travaille bien, on verra vendredi.
Lille.
Voilà,
c'est
un club comme
Lyon qui a fait un recrutement très intelligent malgré des problèmes d'argent.
L'objectif d'Adrien Rabiot d'être en Ligue des Champions tous les ans, c'est pas si simple que ça.
Ce qui est sûr, c'est qu'Adrien Rabiot, il fait énormément de bien à l'OM parce que c'est un garçon intelligent.
Il fait du bien au football. Enfin, un garçon qui fait des choix parce qu'il kiffe son métier et kiffe son sport. Parce qu'Adrien Rabiot, je pense qu'il aurait pu aller jouer partout. Il aurait pu même aller en Arabie Saoudite comme Nathan Zézé.
Mais il l'a expliqué d'ailleurs.
Et revenir en Ligue 1. La semaine dernière, on m'a expliqué ça, que ça pouvait être un.
Voilà.
Exactement. Au moins un gars qui te fait aimer le football. Il aime
C'est un garçon intelligent, ça se voit sur le terrain. Il a tout pour lui. Donc quand il prend la parole, parce que c'est sa deuxième saison, l'objectif c'était quand même de jouer sans la Ligue des Champions, je pense qu'il serait parti. Donc là il reste, il avait aussi donné sa parole. Voilà, c'est un garçon qui est en plus titulaire en équipe de France. Donc il fait un bien fou à l'OM. Il restera pas 10 ans à Marseille, hein. Mais en tout cas, au moins cette saison, il sera là et il apporte énormément. Et De Zerbi ne jure que par lui. Donc voilà, ce genre de personnage, déjà d'avoir gardé De Zerbi, ils ont pas gardé grand monde encore cette année, mais les joueurs qu'ils ont gardé le cadre et l'encadrement, le staff, ça c'est positif pour cette année. Je veux juste rappeler quand même qu'il y aura à jouer la Ligue des Champions. et que pour l'OM c'est pas rien. Donc il y aura énormément d'attentes. Marion l'a dit, il faut finir dans les 24. C'est franchement c'est le minimum pour l'OM encore une fois. Je veux dire Brest l'a fait, Lille l'a fait. Donc il faut finir dans les 24, c'est obligatoire. C'est l'OM. Je veux dire on a trop tendance à croire que quand l'OM finit 4, 5, 6 du championnat, c'est pas grave. C'est super grave en fait. L'OM doit finir dans les 3. L'OM doit avoir des résultats, c'est obligatoire. Quand on voit la ferveur là-bas, quand on voit que c'est une ville de foot, il faut que l'OM soit présent tous les ans, c'est obligatoire. Et Rabiot, c'est ce qu'il a dit en fait. Il a tapé du poing sur la table, il a dit l'OM doit être 2, 3 tous les ans. Ouais.
Alors, et dans la gestion, pour revenir à ce que disait Malcolm pour conclure, dans la gestion de la saison Champions League, il est impératif que cette équipe-là de l'OM dompte le Vélodrome pour pouvoir dominer ces matchs et en Champions League
surtout,
être sûr de d'avoir cette puissance du Vélodrome, de gagner les matchs à domicile pour pouvoir éventuellement souffler, faire tourner sur les matchs à l'extérieur, mais assurer, on l'a vu l'année dernière, quand tu gagnes à domicile, tu es au moins un barragiste. Il va falloir ça pour l'OM pour pouvoir faire une saison, bien gérer cette saison et pas courir après les points.
Alors, on va remercier Malcolm. Malcolm, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Et tu reviens quand tu
Bonne
veux, évidemment,
saison,
dans
merci,
les
Malcolm.
Grandes gueules du sport et sur RMC. Malcolm, bah, on va accueillir un supporter de l'OM. Tiens, Malcolm, c'est Guilin qui est avec nous. Salut, Guilin.
Bonjour l'équipe. Comment allez-vous?
Ça va bien.
Bonjour.
Alors toi, supporter marseillais.
Supporter marseillais en région parisienne.
Voilà.
Voilà. Oula, pas facile.
C'est pas toujours facile.
Tu le sors pas souvent le maillot, quoi. Voilà.
Je le sors chez toi. Je le sors à la salle de sport, je le sors. Juste une petite chose, ma deuxième passion, c'est le tennis.
Oui.
Et voilà, Marion Bartoli, c'est un grand plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le tennis. C'est vraiment un grand kiff aussi.
C'est gentil. C'est gentil, voilà. Merci beaucoup.
Bon, bah, on va vous laisser, hein, Guilin et Marion.
Allez-y, c'est parti. En plus, elle aime l'OM. Elle est pour l'OM.
On va parler après du tennis.
Voilà. Ah. On donnera le numéro à leur antenne, Guilin. T'inquiète pas.
Mais Guilin, elle préfère parler tennis parce que foot, c'est compliqué. C'est ça, c'est soit l'idée.
Non, mais vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire sur cette. Est-ce qu'on s'enflamme trop, là, sur l'Olympique de Marseille? Enfin, pas nous, mais voilà.
C'est dans l'ADN de l'OM de s'enflammer. Dès qu'un joueur prend la parole, bah, c'est mis à la loupe. Adrien Rabiot, ça va, il a le crédit pour parler. Il a le crédit d'avoir fait une très bonne saison avec nous et puis d'avoir une carrière qui plaît dans sa faveur. Ma grande inquiétude en deux temps, hein, le mercato après, c'est qu'il faut se désinhiber du Vélodrome. Alors le Vélodrome, quand ça marche et qu'on met des buts et que ça nous pousse, il n'y a aucun souci. Hier, le match amical ou autre, ça donne des ailes pour reprendre une célèbre boisson. Par contre, quand on fait un Marseille-PSG et qu'on n'arrive pas à faire quatre passes parce que le PSG est très fort, mais surtout que nous, on oublie notre courage ou autre chose au vestiaire, ça devient très compliqué. Moi, j'ai vu des matchs de l'OM alors que tout était réuni pour gagner, tout était réuni pour faire un bon match, et on n'arrive pas à faire trois passes, quatre passes. Alors, c'est pas toujours l'adversaire, c'est aussi nous qui avons cette pression du Vélodrome. Et cette pression du Vélodrome, comment on s'enlève? En ayant des joueurs qui ont l'habitude du Vélodrome, mais pas en renouvelant un effectif sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça, c'est ma grande inquiétude. Ouais. Donc quand j'ai un Adrien Rabiot, ça va, je suis content. Quand j'ai un Amine Gouiri, qui a fait une demi-saison exceptionnelle avec nous, je veux qu'il confirme, mais c'est pas ça. Bon, Greenwood, c'est rassurant. Aubameyang, il y a eu un milliard de débats sur son départ et son retour. Bon, faut voir. Après, est-ce que c'est l'avenir? Non. Donc voilà.
Tu es en train de nous dire que peut-être que ce mercato est pas forcément aussi intéressant que ce qu'on entend pour toi.
Ouais, exactement, ouais. Parce que Pacheco, 35 millions, plus gros transfert de l'OM, ça se fait dans une. Ouais. Moi, je me souviens plus du transfert retentissant de Lucho González, qui nous avait donné le titre.
Quelques années.
Mais oui.
Avec Gabi Enzo et autres, vous voyez, c'était ça. Moi, je me souviens. Là, c'est 35 millions dans l'argent.
Oui, alors, c'est encore
justement, Guilin, rappelle-toi quand Gabi Enzo arrive à l'OM. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de sceptiques. Hein. Il y a aussi à l'époque.
Enfin après, il avait fait une saison au PSG.
Ben justement, PSG, il arrive avec un statut d'ancien Parisien.
Mais tu connaissais le niveau du joueur avec, quand même.
Et oui, mais on était absolument. Le niveau des joueurs, on les connaît. Si tu veux. Le problème, c'est pas le problème du niveau du joueur. C'est qu'est-ce qu'il va donner avec son niveau dans un nouvel effectif et dans un club comme l'OM. Il est là. Il y a des joueurs qui se sont liquéfiés en arrivant à l'OM. Il y a des joueurs qui sont.
Est-ce qu'on en fait pas trop avec ce mercato? Voilà la question.
Tu peux compter sur Medina pour bien mettre le feu, ça va chauffer.
Medina, je pense que c'est une bonne cache.
Mais peut-être la meilleure recrue cette saison de Marseille, c'est peut-être Greenwood. Hier, il a été excellent. Très, très bon. C'est un joueur qui, pour moi, peut faire partie des 10-15 meilleurs joueurs du monde. Il est vraiment, s'il fait très très grande saison, je pense qu'il
soit plus constant.
Il peut porter l'OM très très haut. Ça dépendra de joueurs comme ça aussi.
Regarde l'an dernier,
parce que
la saison,
la Ligue des Champions, c'est ça. Et Greenwood, il a ce talent.
Faut pas qu'il
choisisse. C'est pas un meneur, Ludo. C'est pas un meneur. C'est-à-dire que c'est un garçon qui va être excellent quand tout va bien. Mais lorsque l'OM va avoir des passages, évidemment.
Non, mais les meneurs, c'est Hubert, c'est Rabiot, c'est les gars du terrain, c'est Rulli, c'est Balerdi. Voilà, les meneurs à l'OM, c'est ceux-là.
Et donner cet exemple-là de Rabiot, par exemple. Rabiot est un joueur qui, il faut quand même le signaler, a su travailler avec son entraîneur. De Zerbi a fait un travail magnifique avec Rabiot parce qu'il l'a petit à petit, pour s'adapter à sa réathlétisation et son retour sur le terrain à l'OM, replacé à des postes où il y a besoin de plus en plus de volume. Et Rabiot aujourd'hui, comme tu dis, il prend la parole parce qu'il a l'étoffe de ça. Et je pense que c'est un garçon qui doit maintenant, au bout d'un an à l'OM, est un taulier et doit être celui qui prend la parole. Et c'est peut-être pas été le cas l'année dernière. Tu te rappelles de cette altercation Holmberg avec Greenwood, c'était un peu chaud. Il arrivait juste, il a pas pu
s'interposer.
Là maintenant, il a les rênes de ce vestiaire, Adrien Rabiot, et c'est très bien, je trouve, qu'il prenne la parole avant la saison sur un long moment, qu'il explique où sont les objectifs. Comme ça, le cadre
est donné. Il parle peu en plus, Jérôme, tu vois, c'est
d'autant plus fort.
Mais sa parole a plus de valeur en plus.
Bah exactement. Donc non, mais attention aussi à la surchauffe. Je pense que Medina va mettre le feu sur certains matchs, et je pense notamment à la Ligue des Champions. 2-3 séances de yoga pour De Zerbi, ça va bien se passer. Voilà.
Ah, De Zerbi,
hier, il était déjà en fusion.
Il est on fire. Ah ouais, déjà hier, il a failli se battre avec le.
Mais c'est ça, Marseille.
C'est un vrai point ce que tu dis en rigolant.
Un petit tour sur le Prado pour De Zerbi, une petite baignade, ça va aller. Ça va bien se passer.
C'est une vraie question, parce que Malcolm nous le disait tout à l'heure. Faut voir en Ligue des Champions. Il va découvrir lui aussi la Ligue des Champions. Hein. Il n'a jamais fait la Ligue des Champions de Zerbi. Il a fait la Coupe d'Europe avec Brighton, la Ligue des Champions. Non, il va devoir gérer aussi. Calmer son groupe, c'est parfois, c'est pas forcément c'est ça, dans son ADN. Raison. Ça, savoir calmer le groupe, c'est... savoir relativiser peut-être. Difficile.
Écoute, je peux rajouter.
Non, mais regardez comment il a géré la fin de saison l'année dernière, parce que c'était quand même très chaud pour arriver à finir en top 3. Là, oui, maintenant on est content parce que Liverpool a fini deuxième, mais c'était quand même extrêmement chaud.
Bien sûr.
Et je pense que ce retiro qu'il a effectué, justement, en s'éloignant de toute la pression qui commençait à monter, il a été capable aussi à un moment donné de prendre les bonnes décisions, ce qui lui a donné beaucoup de crédit au sein de l'OM. Aujourd'hui, l'OM est dirigé énormément aussi par Mehdi Benatia, qui fait tout le mercato et les transferts. Il a une confiance absolue en Roberto De Zerbi. Et justement, dans cette interview aussi d'Adrien Rabiot, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a un réel projet de jeu. Il y a un réel projet de jeu. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas juste d'aligner les transferts en se disant, on va voir si lui va nous faire finalement gagner ou lui, finalement, il va nous permettre de faire deux ou trois défaites de moins. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été. Non, mais ça a été très loin
d'être
le cas.
Et t'essayes
de. Oui, là, il y a un réel projet, il y a une identité de jeu.
Encore une fois, c'est vrai, on parle pas de. Pardon pour toi, on parle pas de Metz ou de Nancy. On parle de l'Olympique de Marseille.
Non, mais Ludo, ça a très loin.
Non, mais je suis d'accord, je le sais.
Avec les coachs qui sont passés à l'Olympique de Marseille, je peux t'assurer pour le suivre depuis extrêmement longtemps que ça a très loin.
Quand t'avais Sampaoli, t'avais un projet. Quand t'as quand même eu des entraîneurs performants. Quand t'avais Tudor, t'avais quand même un projet, je suis désolé. Donc voilà, t'as quand même des entraîneurs qui ont une vraie signature à l'OM ces dernières années. Le problème, c'est qu'ils sont partis. Lui, De Zerbi, c'est de quoi il parle. Et c'est sûr qu'il a un vrai projet, une vraie tactique. Donc, évidemment, il fait venir les joueurs en fonction de ce qu'il a envie de faire.
Alors, on va remercier Guilain. Tu voulais rajouter un petit mot, Guilain?
Oui, vas-y. Très rapidement. Je suis pas encore rassuré par la défense. Devant, c'est clinquant, mais derrière, je suis pas encore rassuré.
Ouais.
Medina Balerdi, je suis pas encore serein. Et bien sûr, si on finit pas dans les 24, c'est faute professionnelle. Ligue des Champions, on doit être dans le groupe. Les autres clubs français l'ont fait. C'est faute professionnelle si on le fait pas. Et donc, un rongier, je suis désolé, ça se garde et ça se brade pas.
Voilà. On l'a dit effectivement avec Ludo. Merci beaucoup, Guilain.
Bon dimanche.
Et tu reviens quand tu veux et continue de rester à l'écoute d'RMC.
Bon, Guilain, rappelle qu'on
parlera de tennis. Voilà, on va parler de tennis. Bah, juste dans un instant.
Intelligent, Guilain.
On parle de
quoi?
Bah, il y en a plein. Les supporters qui nous écoutent, ils sont tous intelligents. On revient dans un instant, évidemment, avec.
Non, mais surtout le cliché de Ludo envoyé, genre les supporters de Marseille sont bêtes.
Non, mais là, ça va se payer, ça.
Ah si, attention. Ça va se payer.
Non,
ça va se payer.
Bon, bah,
ça va se payer.
Ça
envoie envoyer un autre scud d'ici la fin de l'émission.
Bon, en tout cas, on va parler de tennis. Hein, donc, Guilain, tu restes. Et puis, tous les fans de tennis, vous restez. Il y a eu des très bons résultats.
Puis, De Zerbi, il a entraîné un club en Ligue des Champions. Le Shakhtar Donetsk. Non, mais je peux pas te dire que De Zerbi a pas entraîné en Ligue des Champions.
Ah oui,
il a entraîné le Shakhtar Donetsk. Alors, ne dis pas de bêtises.
Merci Marion, bravo. Heureusement que t'es là.
On a senti qu'il allait sur la pointe avec l'entraînement, l'entraîneur Ligue des Champions. Il n'était pas sur
Bravo.
Je vais.
Heureusement que t'es là. Mais c'était pour voir si t'étais au courant. Allez, on revient dans un instant. Les résultats des Français à Cincinnati, ils ont été très bons cette nuit, on en parle. Et puis on parle de rugby féminin également tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
En pleine forme, grande gueule du sport ce matin, Marion Bartoli, Jérôme Pinot, Ludo Duchesne. À 10h, ne manquez pas notre bras de fer autour de Remco Evenepoel et de sa décision de rejoindre l'équipe Red Bull la saison prochaine. Est-ce que c'est inquiétant ou excitant pour le cyclisme? Vous pouvez déjà choisir votre camp sur le compte X des grandes gueules du sport et on en parle à 10h. Mais d'abord, c'est l'heure du zapping dans les GG.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Je vous rappelle le principe, je vous donne les infos, vous me dites si ça vous intéresse ou non, si oui, vous parlez, sinon, vous passez votre tour. On va commencer par, évidemment, les très belles performances françaises cette nuit à Cincinnati. Bonzi, Rinderknecht, Manarino et Atman qui ont fait tomber des têtes de série. On s'en fout pas. Ludovic Duchesne.
Ah ben non, on s'en fout pas.
Jérôme Pinot.
Je m'en fous.
Marion Bartoli.
Oh non, elle n'a pas le droit. Mais non, je m'en fous pas.
Bah oui, forcément. Joli tir groupé au deuxième tour de ce Masters 1000. Benjamin Bonzi a battu Lorenzo Musetti, tête de série numéro 8. Et c'est la troisième victoire de sa carrière face à un top 10. Arthur Hinderknecht a sorti Casper Ruud, le 13e mondial. Terence Atman a battu Flavio Cobolli, tête de série numéro 15. Adrien Manarino fait tomber Thomas Machak, le Tchèque, tête de série numéro 19. Et puis Hugo Humbert passe aussi au troisième tour après sa victoire face à Wong. Seul Corentin Moutet a chuté hier face à Mikkelsen lors de ses deuxièmes tours de Cincinnati. Marion, évidemment, on a envie de t'entendre sur cette belle réussite des Français. Alors, ce n'est qu'un deuxième tour, mais quand même, des très belles
performances. Non, mais ça fait toujours du bien. Et puis surtout, le Master 1000 de Cincinnati est vraiment le tournoi référence avant l'US Open. C'est un tournoi qui est extrêmement difficile. On est dans l'Ohio, on est dans le centre des États-Unis. Il fait une chaleur écrasante, une humidité de malade. Pour l'avoir joué toutes les années, je peux vous assurer que physiquement, c'est un réel défi. Et là, de voir les joueurs français arriver à performer en gagnant en 3-7, Arthur Hinderknecht qui s'en sort en 3-7 sur Casper Ruud, alors qu'il perd le premier 7-6. C'est une magnifique performance sur le plan mental et aussi sur le plan physique. Pareil pour Bonzi qui arrive à gagner 7-6 au troisième sur Musetti. Sur tous ces efforts-là physiques, moi, ça m'enthousiasme vraiment avant l'US Open, parce que l'US Open est le tournoi du Grand Chelem où vraiment la chaleur et l'humidité ont une importance majeure dans la gestion des matchs, surtout quand on part sur des 5-7 pour les matchs hommes. Donc de les voir autant en forme sur le plan physique et sur le plan mental, franchement, c'est extrêmement encourageant. Après, quand même, un petit peu déçu du forfait de Gaël Monfils quand même dans le tableau masculin, ça c'est le petit bémol, mais vraiment ces victoires sont extrêmement enthousiasmantes et à quelques jours maintenant du début de l'US Open, ce sont des Français qu'on va devoir suivre sur l'US Open et ça c'est fantastique.
Ludo,
Le niveau moyen, je trouve qu'il est intéressant. Voilà, c'est des vraies performances. Ils ont surperformé tous, puisque tu sors des têtes de série, des garçons comme Musetti, comme Ruud, et pour Atman aussi.
Cobolli, c'est une belle victoire.
Ouais, Cobolli, c'est une très belle victoire. Donc, ouais. Donc c'est intéressant. Non, c'est intéressant. On avait vécu un Roland-Garros épatant côté fille avec Loïs Boisson. Et voilà, là, ce sont les garçons. Et alors que Arthur Fils est blessé, ouais. Donc c'est d'autant plus intéressant, je trouve.
Voilà, du beau monde chez les garçons. Évidemment, ça va être plus dur au troisième tour. Il y a Tommy Paul face à Manarino, Auger Aliassime pour Hinderknecht, Tsitsipas, dont on va parler dans un instant, face à Bonzi. Humbert fera face à l'Américain Tiafo. Donc,
oui, mais voilà. C'est des joueurs comme Auger Aliassime, comme Tsitsipas, qui ne sont pas non plus en pleine possession de leurs moyens, qui ont des gros creux de confiance. Qui, voilà, Auger Aliassime a perdu au premier tour de l'Open du Canada, qui était un tournoi chez lui. Donc, il y a quand même des coups à jouer. Après, on en a parlé, Ludo en a parlé, pour Arthur Fils, c'est une rechute au niveau de sa blessure, ça c'est un tout petit peu plus inquiétant, parce que voilà, c'est quand même le numéro un français, c'est lui qui est capable d'aller le plus loin, le plus régulièrement sur les tournois sur dur. Il avait fait deux finales back-to-back entre Indian Wells et Miami, c'est un joueur qui adore jouer sur les surfaces dures américaines, et là, de le voir à nouveau blessé, c'est vrai que c'est un petit coup dur pour le contingent français avant l'US Open.
Alors, on va parler maintenant d'une autre actu. C'était hier soir à Mont-de-Marsan, France-Angleterre. La France battue par l'Angleterre en match de prépa avant le mondial de rugby féminin. On s'en fout pas. Jérôme Pinot.
Ah, on s'en fout pas.
Marion Bartoli.
Non, je m'en fous pas.
Ludo Duchesne.
Non, je m'en fous pas.
Défaite 40 à 6 des Bleus. 16e défaite de suite face aux Anglaises. Preuve qu'il y a encore beaucoup de travail pour l'équipe de France féminine avant le début de la Coupe du Monde que l'on suivra en direct sur RMC, bien sûr, à partir du 22 août. Les Françaises, le premier match, ça sera face à l'Italie le 23 août, puis ensuite face au Brésil et l'Afrique du Sud. Mais en attendant, effectivement, cette défaite fait mal aux têtes. On écoute Gaël Mignot, la co-entraîneur du 15 de France.
On est une équipe qui est résiliente, qui va repartir fort au travail. Je crois que notre volonté, c'était jouer les Anglaises pour savoir où on en était. Je crois que ben là, on est servi. On sait que, clairement, si on n'élève pas le niveau, si on ne va pas chercher un petit peu plus dans tous les secteurs, ben, la suite de la compétition sera compliquée.
Bon voilà, on s'est posé la question hier, Jérôme, dans les grandes gueules du sport.
Je vous ai écouté.
Est-ce que ça, à quoi ça sert d'affronter justement une des favorites? La réponse, on l'a peut-être eu hier sur le terrain.
Non, mais moi, en plus, j'ai écouté le débat d'hier. Est-ce que c'était mon avis, c'est-à-dire qu'il fallait
t'aurais
pas
dû appeler,
ce match.
Hein, vraiment.
Mais non, mais parce qu'en fait, ce qui est arrivé était prévisible. Alors si large, peut-être pas, mais cette défaite là, elle met quelque chose dans la tête des Françaises. C'est quoi? C'est on attaque une compète qui, de toute façon, a priori, en rugby, il y a quand même très peu de surprises. On va pas gagner. La compète qui arrive, on va prendre une tôle. Si même on arrive au sommet, si on arrive dans les phases finales, et dès qu'on va jouer l'Angleterre, on va perdre. Donc, à quoi bon avoir fait ce match? Pour moi, dans la prépa, et là, Marion, tu me diras ce que t'en penses, dans une prépa, quand on est sportif de haut niveau, on aime l'adversité. Mais quand on est dans les phases terminales de la prépa, il reste 12 jours jusqu'à la Coupe du Monde. Il faut te faire un match où même si tu joues des peintres, ça te donne la confiance. Il faut gagner. La victoire nourrit l'envie de regagner demain. Et là, tu vas jouer contre une équipe où même si tu fais un super match, tu peux perdre. Et là, tu fais pas un super match, tu prends une tôle. Et donc, tu te mets une balle dans le pied en te disant, mais de toute façon, cette Coupe du Monde-là, bah, on la gagnera pas. Donc, est-ce qu'on va réussir à exceller face aux autres nations? Parce que là, tu sais que le global, c'est la compète. Le titre, t'es sûr de pas l'avoir. Comment tu arrives à motiver des troupes si t'es sûr de pas gagner le titre?
Ludo est en train de bouillir.
Je comprends pas comment Jérôme peut dire ça. Ça fait vraiment. D'ailleurs, Gaël Mignot, la sélectionneur ou news, comme vous voulez, le disait. Je pense que l'équipe de France est l'équipe qui pose le plus de soucis à cette équipe d'Angleterre. Tu vas me dire, ils ont pris une raclée.
Mais
c'est pas grave, c'est un match amical. Combien de compétitions on a vu où les matchs amicaux ne reflétaient pas la compétition? Ça n'a rien à voir. Là, elles savent qu'elles sont passées à côté. Si j'ai bien suivi le tableau.
Elles passent à côté à chaque fois contre l'Angleterre.
Oui,
non, mais non. Elles leur posaient soucis, mais dans les 20 dernières minutes.
Mais la dernière fois, c'est 43-42. On peut dire qu'elles ont failli gagner. Donc,
là. À chaque fois, c'est failli gagner, sauf que tu te.
Il suffira d'une fois, Jérôme. Elles devraient retrouver. Parce que tu dis qu'elles n'ont aucune chance. Pardon, les trois dernières Coupes du Monde, elles ont fini 3e. Donc si quand t'es sur le podium, si tu me dis que t'as aucune chance,
je devrais les retrouver en demi-finale.
Je peux pas être d'accord. En demi-finale, ben voilà, c'est là qu'il faudra créer l'exploit. C'était pas hier. Hier, ce qui est embêtant, c'est la défaite, mais c'est la lourde défaite.
La large défaite.
Oui, mais elles voulaient savoir où elles en étaient. Ben voilà, elles sont loin. Putain. Donc elles ont 15 jours pour travailler.
Quand tu l'entends la sélection, 15 jours pour travailler. Mais c'est trop tard, Ludo.
Non.
15 jours. C'est...
Mais non, elles vont être revanchardes, elles vont vouloir tout casser, elles doivent gérer l'Italie.
Travailler quoi? Tu travailles quoi, là?
Non, mais elles ont bossé, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, elles savent qu'elles vont devoir faire beaucoup plus. C'est ce qu'a dit la sélectionneur. Donc voilà, moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà, c'était un match pour se tester. Elles se sont testées. Elles ont pris une raclée. Ça veut pas dire qu'elles seront pas championnes du monde.
Mario, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, mais c'est vrai que nous, dans le tennis, tu fais jamais ça, quoi. Tu fais jamais un match de préparation où tu sais que sur une surface, je sais pas, tu vas jouer, par exemple, quand Rafa était à son prime sur terre battue et tu vas le jouer 10 jours avant au match amical ou en match de prépa ou en match d'exhibition. Tu
l'appelles comme tu veux. Oui, mais vous avez des sparring partners.
Non,
vous.
Mais tu sais que tu vas te faire découper en 1h30. Je veux dire, là, le problème, en fait, c'est le scénario qui est vraiment très difficile de s'imaginer, parce que la Coupe du Monde, le premier match de la France, c'est contre l'Italie le 23 août. Après, le reste de la Coupe du Monde va se dérouler, mais dans le premier quart d'heure, elles prennent 12-0. Je veux dire, le résultat final, il n'y a pas de match. Il ne faut pas se raconter de d'histoire. Il y a un écart, il y a un monde d'écart entre les deux équipes. Donc, me dire que ce monde va se réduire sur l'espace d'une compétition, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'envisager. Et là où je rejoins totalement Jérôme, c'est que peut-être que nous, sous un prisme français, on peut se dire, finalement, ça nous donne à nouveau une espèce de photographie de l'état actuel. Mais si tu te mets dans le prisme anglais et que tu affrontes la France sur un match en jeu, tu te dis, mais attends, là, on les a explosés en match d'entraînement. Entre deux
alors,
matchs
c'est
amicales.
Intéressant, Marion.
On ne voit pas comment on peut perdre sur un match
ça
officiel.
Sera en Angleterre.
Donc, en fait,
Gaël Mignot vient de faire une déclaration.
En fait, la confiance des autres.
Gaël Mignot vient de faire une déclaration là il y a quelques minutes. Finalement, elle déclare forfait. Donc elle ne vont pas.
Quoi.
Donc à la Coupe du Monde de rugby,
parce que
quand elles écoutent Mario et Jérôme, du coup c'est même pas la
tu
peine de jouer. C'est même pas...
6,
eux, c'est des sportifs de haut niveau, mais ils t'expliquent. Quand tu perds avant la compétition, tu ne joues pas donc la compétition et que tu n'as aucune chance.
Moi je dis, ok,
alors en tennis tu jouais pas, il y avait Nadal. En vélo tu vas pas, il y a Pogacar.
Ok.
Mais bon, non, même Nadal, il a gagné 14 fois Roland Garros. Donc, si tu veux, il y en a beaucoup qui ont essayé, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont battu.
D'accord.
Quand tu gagnes 14 fois un tournoi, c'est que tu n'en as pas beaucoup qui ont été capables de battre.
Mais non, mais arrête
c'est
de
pas
dire.
Ça. Mais ce qu'on te dit, c'est que d'organiser ce genre de match.
Voilà, c'est plus sur le choix d'affronter les super favoris.
Tu les joues 6 mois avant.
T'as failli les battre, justement.
Tu dis, t'as 6 mois pour continuer à avancer. Oui, mais là, 12 jours avant une compétition, voilà. je vois pas trop l'intérêt. Voilà, c'est le timing.
C'était le débat d'hier. Fred Weiss aurait bien voulu.
On aurait pu le refaire.
Il vient nous écouter, Fred. Il aurait bien voulu avoir le soutien de Jérôme et de Marion.
C'est des débiles. Il était tout seul. Je prends l'info.
Non, la programmation est pas la
seule. C'est eux qui ont décidé.
La programmation est pas ça.
Mais bon, voilà, peut-être qu'il y a des choix qui peuvent surprendre. C'est tout. Voilà, ça surprend. C'est tout.
On verra. Bon, rendez-vous.
Vous avez fâché Ludo là. Il est fâché. Il est contrarié.
Bon, on a quand même le droit de donner
un point. Moi, j'y crois aussi.
C'est le but du jeu des grandes gueules du sport. Hein. C'est quand même qu'on s'écharpe. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Dans un instant, les bras de fer. Tiens, justement, ça tombe bien. On va avoir un beau bras de fer autour du vélo et de Remco Evenepoel qui va rejoindre l'équipe Red Bull. Inquiétant ou excitant pour le cyclisme? Il faut choisir votre camp. On en parle dans un instant dans les grandes gueules du sport sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.